Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Maren.
Salut à tous.
Et d'ATH.
Bonjour, bonsoir.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, une actualité courte, hein, je vous préviens, on vous parlera du remake de Fear Effect, ainsi que de celui de Medieval. On enchaînera ensuite sur Fallout New California, le mode qui est enfin sorti. Et enfin, on terminera sur Rockstar et ce putain de gros menteur de Dan Houser. Mais on y reviendra tout à l'heure, n'est-ce pas? Et enfin, pour terminer, il y a un petit test qu'on doit faire cette semaine. Un petit jeu comme ça, pas très connu, ça s'appelle Assassin's Creed Odyssey, vous allez voir, c'est sympatoche, on va en discuter. Bon, messieurs, on va commencer cette semaine d'actualité avec les premières images d'un remake de Fear Effect. Fear Effect, je rappelle, c'est un jeu qui avait marqué la PS1 à son époque, déjà pour son côté coquin, hein, c'était assez inhabituel à l'époque. Je me rappelle des couvertures de magazines, tu sais, avec deux nanas à moitié à poil, enfin voilà, bah, l'adolescence, tout ça, vous savez ce que c'est, donc forcément...
Ah bah, les magazines de jeux vidéo à l'époque, oui, c'est... Oui.
Et surtout que c'était un jeu qui était en avance sur 30 ans parce que les deux nanas étaient lesbiennes.
En vrai, même aujourd'hui, tu vois, c'est pas si habituel que ça. Donc, c'est dire à quel point ça avait rué dans les brancards à l'époque. Et en plus, c'était un jeu qui était quand même vachement beau. Enfin, je me rappelle, tu voyais ça, c'était en gros Resident Evil avec quelque chose qui ressemblait à du cel shading, mais sur PlayStation, on va dire. Et c'était mais vraiment magnifique. Et donc, Square Enix a prévu de faire un remake de ce jeu. Un remake qui est fait par le studio français qui avait fait le jeu Fear Effect, qui était en mode tactical RPG, je crois. Donc, on a les premières images qui sont apparues. Et je voulais juste poser une question. En fait, c'est juste pour ça que je fais cette news. Hein. En vrai, parce que j'ai pas vraiment l'intention d'y rejouer à Fear Effect. Pourquoi vous l'avez pas fait en cel shading? Mais vraiment, question sérieuse. Pourquoi est-ce que les modèles de perso, c'est des modèles 3D, enfin, je vais pas dire réalistes, mais, pourquoi vous avez pas choisi un rendu cel shading, quoi? Le jeu, il appelait à ça. Pourquoi vous avez fait ça? Les persos sont moches, quoi. Les décors encore, franchement, ça va. Et j'ai envie de même de dire, voyez Square Enix, vous auriez fait ça avec Final Fantasy VII au niveau des décors, les gens étaient très contents. Mais par contre, les persos, putain, mais, faites du cel-shading, quoi, bordel. Le jeu, c'était quasiment un précurseur du cel-shading à l'époque. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en cel-shading?
J'ai une petite théorie pour ça. C'est que le cel-shading, en fait, c'est une technique qui est très compliquée à mettre en place. Parce que ça pourrait paraître simpliste avec des graphismes dessins animés, mais en fait, d'après les interviews des développeurs que j'ai pu lire, pour Jet Set Radio, c'était une galère, pour Okami aussi, parce que c'est-à-dire qu'en fait, il faut tout dessiner en 3D, puis le redessiner en 2D et appliquer par-dessus ça une couche qui donne cet aspect animé. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. On pourrait dire, ouais, bah faire du dessin animé, c'est simple. En fait, non, ça demande beaucoup de travail et je pense que peut-être que c'est pour ça et pour une raison aussi de budget.
Oui, Square Enix étant particulièrement connu en dehors de Final Fantasy VII, hein, vraiment qui est l'exception, tu vois, mais les remasters, remakes de Square Enix... Enfin, je veux dire, regardez tous les jeux mobiles en 2D dégueulasses qui nous ont sortis.
Secret of Mana.
Ah oui, non, mais là, Secret of Mana, c'est encore pire, c'est en 3D, tu vois. Enfin, c'est l'horreur de Secret of Mana qu'ils ont sorti. Des mecs qui savent faire des jeux dégueulasses, quoi. Donc, bon. Alors là, attention, je vais pas dire non plus que c'est dégueulasse, faut pas exagérer, on n'est pas du niveau de Secret of Mana. C'est quand même plutôt agréable à la lèche, c'est juste que les personnages, j'ai pas compris, quoi. Je me suis dit, mais, enfin, le jeu, tu vois, je me l'imaginais en HD, je voyais un genre cel-shading, je voyais pas ça. Voilà. C'est tout. Ensuite, bah justement, on va parler d'un autre jeu qui est assez attendu par pas mal de gens. C'est le remake slash remaster de Medieval. Et c'était justement l'interrogation qu'on avait sur le jeu. Est-ce que c'est juste un remaster un pour un et on te fait juste des plus beaux graphismes à la Crash Bandicoot? Ou est-ce qu'on revoit complètement le jeu? Et apparemment, ce sera un vrai remake. Et vous allez l'entendre, je dis... Ouf, ouais. Parce que à mon avis, il y a des gens qui ont des souvenirs tout roses, tout beaux de Medieval. Sauf que, en vrai, je pense que c'est un jeu qui a super mal vieilli, comme tous les premiers jeux en 3D, avec un level design sympatoche, mais pas top non plus, quoi. Je suis très content qu'ils fassent un vrai remake, qu'ils remettent le jeu au goût du jour, tout en respectant le jeu original, un peu comme ce qu'on avait fait avec Ratchet & Clank, qui pour le coup était un... Bon, après, c'était... le jeu du film qui reprenait l'histoire du 1, mais bon, c'était plus ou moins un remake, quoi, on va dire.
Un remake qui s'assumait pas trop.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'en fait, le film reprenait l'histoire du jeu, et le jeu reprenait l'histoire du film, en fait. Donc, c'était le serpent qui se mordait la queue. Mais par contre, pour Medieval, c'est vrai que le jeu PlayStation 1, il a très mal vieilli aujourd'hui. Moi, ce que je me rappelle, c'était que le jeu était... Il y avait un humour un peu décalé par rapport à ce qu'on jouait. Mais c'est pas possible de ressortir un remaster de ce jeu-là aujourd'hui. Je pense que, tu vois, dans le jeu vidéo, il y a très peu de vrais remakes. Il y en a eu quelques-uns. Pour moi, le meilleur, ça restera Resident Evil 1, qui est encore aujourd'hui très beau, même sur GameCube. C'est juste fou ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Un vrai remake, ça demande plus de travail que de reprendre le jeu tel quel. Il faut reprendre le jeu, ce qui a fait sa force, réadapter le gameplay, mais aussi penser à des choses qui n'y étaient pas à l'époque ou bien qu'on pouvait pas implémenter. Et un vrai remake, ça apporte des choses en plus.
Et c'est chiant à faire. D'un côté, tu peux pas non plus te permettre de faire n'importe quoi. Il y a quand même un respect à avoir vis-à-vis de l'œuvre originale, mais de l'autre, tu peux pas trop poser sur les lauriers. Donc il y a un équilibre difficile à trouver entre les deux, quoi.
Bah c'est pour ça que, en fait, tu vois, je parlais de Resident Evil. Quand il était ressorti, c'était la même histoire en fait que le premier sur PlayStation, sauf que il rajoutait quelque chose d'annexe avec une partie sur Lisa Trevor et sa famille, qui n'était pas dans le jeu principal, donc qui est amené à une annexe du manoir pour justement développer un peu plus cette histoire-là. Et puis après, il y avait tous les ajustements de gameplay qui étaient faits à l'époque, et plus, il faut le dire, la claque graphique de l'époque. Le jeu, quand il est sorti, moi à l'époque j'avais vu ça dans un magasin, je me suis dit si c'est pas possible que ce jeu-là existe sur console, quoi. Et quand j'ai vu Resident Evil, j'ai fait mais non, mais c'est foutage de gueule, quoi. Le jeu est trop beau. Et encore aujourd'hui, c'est juste incroyable ce qu'ils ont réussi à faire à l'époque. Un vrai remake, c'est comme ça, parce qu'il y a eu des remakes qui ont été critiqués, par exemple comme Metal Gear Solid The Twin Snake, parce que là c'était Kojima mais sous en fait, c'est-à-dire que Kojima déjà c'est n'importe quoi dans ses personnages et ses cinématiques.
Ah,
là,
Denis Daeka, oui. Ah, d'ailleurs Denis Daeka qui a réouvert son studio.
Comme t'as dit, faut pas dénaturer une œuvre. Là, on avait une œuvre où Solid Snake sautait de missile en missile pour défoncer un hélicoptère. On s'attendait plus ça du côté d'un Dante dans un Devil May Cry que de Solid Snake. Ouais.
C'est ça. Bon, on va enchaîner, messieurs, et on va parler maintenant d'un mod. D'un gros mod. On vous en a déjà parlé ici, c'est Fallout New California, qui est une préquelle faite par des fans de Fallout New Vegas. Fallout New Vegas, le jeu légendaire de Obsidian, qui est un peu l'un des rares Fallout modernes qui m'a réconcilié un peu avec la série. Mais bon, depuis ils en ont plus refait des comme ça, donc finalement on s'est refâché. Et donc, des fans ont décidé de faire une préquelle. Et quand les fans de Fallout New Vegas font une préquelle, ils n'ont pas par quatre chemins. Ils font pas les choses à moitié. Ils font les choses en grand. Déjà, au niveau de la map, elle fait à peu près les deux tiers de la carte de New Vegas. Il y a entre 6 et 30 heures de jeu, à peu près.
Donc, ah oui.
Apparemment, vous pouvez tracer, mais vous pouvez bien prendre votre temps aussi, quoi. Il y a 13 fins. Donc ils ont respecté l'esprit de New Vegas, qui était un jeu avec de multiples embranchements de quêtes et de multiples fins. Il y aura des embranchements vraiment uniques parmi ces fins. Il y a aussi 16 942 lignes de dialogue, dont 14 877 qui sont doublées, avec 60 acteurs volontaires qui ont doublé ces lignes-là. Voilà. Et plein de nouvelles textures, des nouveaux meshs, 48 nouvelles quêtes dans la quête principale, etc. Enfin, bref, c'est un projet super ambitieux, fait par des fans. C'est disponible désormais en téléchargement. Allez-y, foncez. Moi, je vous laisse. Hein, salut. On arrête l'émission. Allez.
Non, mais ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment, vraiment cool.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que quand c'est des amateurs qui essayent de faire mieux, des mecs qui travaillent dans l'industrie, en fait. C'est-à-dire que là, tu vois vraiment que c'est des passionnés qui veulent apporter, en fait, tout l'amour qu'ils ont pour cette licence-là. Donc, tu sens que, déjà, les mecs, ils vont respecter la série à fond. Mais surtout que, tu vois, c'est des mecs qui ont fait ça, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont quand même trouvé des moyens de mettre des doubleurs, des choses qui, en général, coûtent de l'argent. Et c'est ça qui est fou, quoi. Je me suis dit, tu vois, à la limite, ils auraient ajouté des quêtes où il y aurait juste des lignes de dialogue. Déjà, ça aurait été pas mal d'écrire des scénarios qui soient intéressants. C'est déjà du travail, hein. Mais là, de faire comme un studio, entre guillemets, qui réalise un RPG, mais à leur échelle, bah, franchement, là, tu peux juste dire, ok, les mecs, bravo. Et en plus, voilà, Fallout New Vegas, comme t'as dit, c'est quand même le meilleur Fallout de ces dernières années, parce que Fallout 4 et Fallout 3, quoi, c'est... L'écriture, c'est pas trop ça, quoi.
Voilà. Bon, bah ça y est, on a fait le gros de l'actualité, on va maintenant s'attaquer au gros morceau.
Ouais.
On va parler de Rockstar, évidemment. Il y a un gros papier de Kotaku qui est sorti, puis il y en a eu ensuite un d'Eurogamer. Et je crois qu'à la lecture de ces papiers, on peut déjà conclure par une chose. Monsieur Danhauser, s'il vous plaît, arrêtez de mentir, ça devient ridicule. Là. Il y a du crunch chez Rockstar, il y a du crunch assez massif chez Rockstar même.
Du crunch institutionnalisé même.
Oui, c'est ça. Notamment chez les studios de QA. Alors, je dis pas que c'est partout comme ça chez Rockstar. On a des exemples qui témoignent du fait qu'il y a des employés qui font des heures normales chez Rockstar. Mais il y a certains pans de Rockstar où le crunch est obligatoire, y compris sur Red Dead 2, où ça détruit les vies de gens, de leur famille, etc. Messieurs, ouvrez le feu.
Ouais. Alors c'est en grande partie Rockstar Lincoln qui a été le plus sous le feu du crunch sur Red Dead 2.
Rockstar Lincoln, précisons, c'est la QA, donc tout ce qui est bug, etc. Voilà.
Le QG new-yorkais de Rockstar a été très 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 sujet au crunch également. À savoir que les gens qui travaillent chez Rockstar Lincoln font partie des payes les plus basses données chez Rockstar et font partie des gens qui travaillent le plus d'heures supplémentaires. C'est-à-dire que t'as une équipe de jour et une équipe de nuit qui travaille chez Rockstar Lincoln parce que un jeu comme Red Dead 2, ça demande du QA quasi 24 heures sur 24, quoi. On est vraiment dans des perspectives qui sont impressionnantes en termes d'heures supplémentaires et de conditions de travail. Je lisais l'article de Kotaku qui donne un petit peu des idées de comment ça se passe là-bas. Il y a des conditions qui sont très très strictes, notamment sur le port du téléphone portable qui est interdit dans les locaux de Rockstar Lincoln. Ils doivent mettre leur téléphone au placard, ce qui est plutôt pas très pratique quand tu dois gérer un rendez-vous chez le médecin, par exemple.
Surtout quand tu passes ta vie au taf.
D'autant plus. Autre petite anecdote, mais qui montre vraiment que on se fiche un petit peu du bien-être d'un salarié. Imaginez-vous travailler l'intégralité de votre journée avec les rideaux fermés. Et ben c'est ce qui s'est passé en fait chez les Rockstar Lincoln, puisque au bout d'un moment en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit malin qui faisait voler un drone au-dessus du studio de Rockstar Lincoln. Et en fait, au lieu de gérer cette situation-là, ils se sont dit on va fermer les rideaux et on va empêcher les gens de les ouvrir, y compris la nuit. Et effectivement, hein, y a des gens, et notamment dans l'article de Kotaku qui est très long, je vous le conseille de le lire quand même.
C'est deux bons gros pavés, hein, je vous préviens, si ouais, vous voulez les lire.
Y a effectivement des gens qui disent, depuis Red Dead 1, donc en 2010, où justement on a eu les premiers échos du fait que c'était horrible, il y avait un crunch incroyable, et que les épouses des développeurs avaient beaucoup beaucoup de mal à voir leur mari, que depuis ça, ça s'est amélioré. Petit à petit, hein, vraiment petit à petit, parce que sur GTA V encore, c'était très très compliqué. Sur Red Dead 2, c'est encore compliqué, mais ça s'améliore. Donc on est vraiment dans du petit à petit. Ça reste des jeux qui sont immenses, on va pas se mentir. Et t'as beaucoup de gens qui disent, mais de toute façon, je ne vois pas comment on peut créer un jeu pareil sans faire de crunch. On en revient au propos que j'avais la semaine dernière, qui est, mais est-ce qu'il serait pas temps de réduire un peu la voilure? Mais bref, t'as beaucoup de gens qui disent aussi que c'est un job incroyable, hein, d'avoir un truc comme ça. Par contre, le crunch, ça tue pratiquement les gens, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut faire attention à ce qu'on force les gens à faire. Les développeurs ressentent une fierté d'avoir travaillé sur ces jeux.
Y compris ceux qui disent que c'est la merde, hein, je précise.
Et oui, bien sûr. Il y a eu quasi 90 personnes interviewées par Jason Schreier chez Kotaku. C'est immense, hein, comme papier. Tous s'accordent à dire qu'ils éprouvent une fierté incroyable d'avoir travaillé sur des jeux comme Red Dead Redemption 2. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi une espèce de façon de faire les jeux qui pourrait aussi être un poil plus ouverte sur les conditions de travail? Parce qu'effectivement, ça s'améliore, mais est-ce qu'au bout d'un moment, on peut pas aussi dire oui, on met les choses à plat, quoi?
Oui, c'est parce que ça s'améliore. Je vous incite très fortement, après avoir lu l'article de Kotaku, à aller lire sur Eurogamer. Alors, si ça s'améliore, moi je veux bien, hein, mais c'est quand même la grosse merde. Hein. Ouais. Parce que quand t'as des gars qui te disent que ça fait des mois qu'ils ont pas eu de rancœur avec leur copine, qu'ils ne voient plus leur famille, que des amis qui voient de temps en temps, maintenant, ils ne les voient plus du tout. Quand ils te disent que ça a détruit des couples, qu'ils n'assistent plus aux événements importants de la vie, comme l'anniversaire de leurs enfants, etc., et que il y a des gens qui partent parce qu'ils sont en burn-out, on leur dit ils reviendront quelques mois plus tard et en fait ils ne reviennent jamais. Si ça, ça s'est amélioré, j'ose même pas imaginer ce que c'était sur des jeux comme GTA 4 et GTA 5. Ah si, j'imagine bien, parce que chez Eurogamer, ils parlent aussi de GTA 4, notamment, et on a des exemples, mais moi, je vous assure, j'ai lu ça, les gens, ça donne envie de casser des bouches. Vous voyez, des gars qui faisaient correctement leur taf, qui faisaient des heures sup en plus, et où on leur disait à l'époque, non mais faire des heures sup, c'est pas assez, il faut quand même que tu viennes le week-end. Parce que c'est important que tu sois là. Pourquoi c'est important que tu sois là? Je sais pas, mais c'est important que tu sois là quand même, hein. Ah non, mais tu fais tes heures, t'as tous tes bugs qui sont réparés. Attends, bouge pas, je reviens. Tiens, voilà, plein d'autres bugs à réparer. Maintenant, tu vas venir le week-end.
Il y a des trucs qui m'ont scandalisé aussi dans ce genre d'anecdote également, qui est que chez Rockstar, on apporte plus de valeur à quelqu'un qui va venir le week-end, qui va rester le soir, qui va faire beaucoup d'heures supplémentaires, que finalement au nombre de bugs qu'il répare. Il y a un truc qui est encore plus impressionnant et on est vraiment en train de marcher sur la tête, qui est que c'est bien de faire genre t'es là. Si jamais t'as Dan ou Sam Hauser qui passe, c'est vraiment bien que tu sois là. Et il y a même eu des conversations avec des chefs où les chefs ont dit aux gars, ça serait vraiment bien que tu sois là ce week-end parce qu'il y a Dan et Sam Hauser qui viennent ce week-end et ils aiment plutôt bien voir les gens qui sont assis à leur bureau quand ils passent. Je cite, il y a un mec qui travaille au QG de Rockstar, qui dit « Il y avait des samedis où j'allais au taf sans rien à faire, je m'asseyais pendant 6 à 8 heures, juste au cas où Sam ou Dan viendrait. » Mais tu te dis, mais au bout d'un moment, comment tu peux proposer un management pareil, quoi? C'est ridicule.
Ça s'appelle la pression sociale au travail. C'est-à-dire que tu fais tes heures, t'es mal vu, tu fais plus, même si tu branles rien au boulot, t'es bien vu. Par contre, tu vois, je suis content de voir ça parce que j'ai souvent entendu des gens dire « Oui, il y a qu'en France que tu vois ce genre de choses, etc. » Bah non, regardez. Hein. Et les anglo-saxons, ils sont pareils. Voilà. Alors, je dis pas aux gens de boycotter les jeux, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que tous les gugus là qui défendent Rockstar, vous rendez compte de ce que vous imposez aux gens faisant ça. Voilà. Ces gens-là, ils ont mis leur sang dans ce jeu-là. Donc, j'espère que vous allez en profiter de ce jeu-là. Hein. Ouais. Parce que putain, ils en ont chié. Mais par contre, s'il vous plaît, arrêtez de défendre l'indéfendable. Ouais. Pitié, quoi. Pitié.
Et j'en reviens aussi au fait que boycotter le jeu, c'est pas la solution. Il y a des gens qui sont payés ce qu'on appelle un contrat à l'heure. Et ces gens-là, en fait, toutes les heures supplémentaires qu'ils font, elles leur sont payées. Mais il y a aussi des gens qui sont en contrat salarié. Et ces gens, en fait, quand ils font des heures supplémentaires, celles-là, elles sont pas payées. Et ces gens, ils restent chez Rockstar en espérant avoir un bonus très quantitatif pour justement réparer, entre guillemets, ces heures qu'on leur a pas payées. Il y a des bonus annuels hein, chez Rockstar, mais les bonus annuels des années où les jeux sortent, évidemment, ils sont très très substantiels, aux alentours de $50,000 a priori, dit Kotaku. Donc évidemment, le boycott n'est pas la solution pour soutenir ces gens-là qui espère avoir réparation, finalement, de toutes ces heures qu'on leur a pas payées. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est...
Arrêtez de défendre cette culture-là, tout simplement. C'est ça. Quoi. Par exemple, moi, je sais pas, aller voir Downhauser, envoyez-lui un tweet, tiens, pour lui dire que c'est un gros menteur, par exemple. Ça, ouais, ça, je pense que ça sera efficace, tu vois. Faire comprendre aux gens qu'ils devraient avoir honte de faire ça. Parce que moi, je suis désolé, quelqu'un qui est là, qui est fier, parce que le mec, je suis sûr, en fait, il s'attendait pas à avoir cette polémique-là, tu vois. Le mec, il était fier de te dire qu'il faisait crever ses employés au travail. Et il s'attendait pas à ce que, ah merde, ah bah non, finalement, c'est pas acceptable de traiter les gens comme de la merde, en fait. Ces gens-là, il faut leur faire comprendre, à un moment donné, que non, c'est mal ce que vous faites, en fait, vous voyez. On est des êtres humains, et nous, c'est pas ce qu'on vous demande, hein, de traiter les gens comme des chiens au travail. Hein. Et d'ailleurs, si vous gériez un peu mieux votre boîte, on n'en serait peut-être pas là. Parce que, aussi, ce qui est intéressant dans les articles, c'est que il y a quand même pas mal de choses chez Rockstar qui relèvent de l'absurde. Hein. Genre, je crois que Morgan, on parlait tout à l'heure d'un exemple d'un nom d'une ville qu'ils ont voulu changer au dernier moment. Ils ont dû réenregistrer tous les dialogues, il a fallu tout refaire, et ça a remobilisé les employés en mode crunch pour régler le problème avant la sortie.
Ouais, c'est la ville de Saint-Denis. Avant, elle s'appelait New Bordeaux. Et c'est rigolo parce que New Bordeaux, c'est aussi le nom de la ville dans Mafia 3. Et quand Rockstar s'en est rendu compte, ils se sont dit, bah non, c'est pas possible, on peut pas appeler notre ville New Bordeaux, il faut qu'on change ça. On va l'appeler Saint-Denis. Mais le problème, c'est que il y avait énormément de lignes de dialogue qui parlaient de New Bordeaux, mais pas de Saint-Denis. Il y avait plein de pancartes à l'intérieur du jeu qui étaient implémentées qui disaient New Bordeaux. Il y avait plein d'interfaces dans le jeu qui disaient New Bordeaux. Et tout ça, mise bout à bout, cette décision qui finalement tient sur deux mots, ça a donné du coup des semaines de travail de plus à donner aux employés. Et c'est plein de choses comme ça qui on a parlé aussi, je sais pas si on en parlait la semaine dernière, mais le côté cinématique aussi. Au bout d'un moment, en fait, Dan Houser s'est dit, en fait, les cinématiques de mon jeu, elles ressemblent pas assez à du cinéma. Ça serait bien qu'on fasse des bandes noires en haut et en bas dans nos cinématiques. Bah ouais, c'est bien, sauf que en fait, il a fallu toutes les refaire, les cinématiques. Parce que c'était pas juste l'idée de plaquer une bande noire en haut et une bande noire en bas. Il fallait respecter la valeur des plans qui avaient été choisis par les réalisateurs des cinématiques. Donc il a fallu tout refaire. Et tout ça, c'est des choses qui, en bout de course, ça te fait prendre un temps monstrueux. Imaginez-vous la charge de travail qui s'impose sur vos employés. C'est, on marche sur la tête, vraiment.
ATH?
Alors écoutez, monsieur Mordren et monsieur Tyran, je trouve vos propos très choquants et très accusateurs envers Rockstar. Car, pour faire un jeu exceptionnel, je veux dire par là, un jeu qui a des 21 sur 20, vous pensez qu'on peut le faire avec des studios de développement qui ne font pas des paires de crunch? Après, c'est vrai, les employés sont un peu surmenés au travail, mais je veux dire, ces sacrifices-là ne méritent-ils pas d'être faits pour la grandeur du jeu vidéo et de l'histoire? Imaginez-vous, pendant les batailles, si nos soldats avaient déserté car ils étaient trop fatigués. Qu'auriez-vous dit? Alors, peut-être que, voilà, Rockstar a vu les choses trop grands, mais ce qu'il faut retenir par-dessus tout, c'est que un jeu exceptionnel mérite ses sacrifices. 21 sur 20, mesdames et messieurs. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Merci, maître Chiez. Il y a aussi des choses qui sont importantes à dire, notamment le côté il y a un certain nombre de développeurs qui ont parlé anonymement évidemment à Kotaku et à Eurogamer. Certains disaient qu'ils étaient terrifiés à l'idée de parler, ne serait-ce que de contacter ces journalistes qui faisaient une enquête. Et il y a un certain nombre d'entre eux, notamment dans l'article de Kotaku, qui mentionnent, et je cite, une culture de la peur.
C'est des propos diffamatoires, monsieur Mordren. C'est des propos diffamatoires. N'écoutez pas les médias. On vous ment.
À quel moment on en arrive là, en fait, dans une entreprise où les gens s'empêchent de parler? Et les gens se forcent même à rester dans une entreprise qui les traite mal, parce que ces gens ne seront pas au générique de fin du jeu si ils ne restent pas jusqu'à la fin du développement du jeu. Et ça, je trouve ça absolument scandaleux. Et c'est quelque chose qui est assumé, notamment Jennifer Colby, qui est la directrice de publication de Rockstar et donc sur Red Dead 2, qui dit que ils ont compris très rapidement que ils voulaient, dans leur culture d'entreprise, que les gens qui terminent le jeu, ce serait uniquement ceux-là qui seraient dans le générique de fin. Mais comment? Par pitié, expliquez-moi.
Bah quoi, connard, t'as eu un burn-out, t'es parti parce que t'en pouvais plus. Bah voilà, il fallait rester jusqu'au bout, hein. Et faut souffrir, hein, pour.
C'est beau, c'est très très beau. C'est très bien que tout ça, ça sorte, parce que ça permet de faire de la pédagogie et c'est ça qu'on fait depuis quelques semaines. Et c'est bien que les gens en prennent conscience de ce genre de problématique. Et en fait, ce qui est fou, c'est que chez Rockstar, il y a même pas la possibilité pour les employés de parler anonymement à leur chef. Il n'y a même pas de boîte de suggestions, tu sais, où les gens déposeraient leurs avis et leurs propositions aux gens. Ça n'existe même pas chez Rockstar. Et c'est uniquement après tous ces articles-là qu'ils vont se dire « Ouais, c'est peut-être une bonne idée. » Parce qu'en fait, les gens, on leur dit « Parlez-nous librement. » Mais ils nous parlent pas librement. Comment ça se fait qu'ils nous parlent pas librement l'un en face de l'autre? Bah peut-être parce qu'ils ont peur, en fait.
Continue Dream CD Projekt. Pardon. Non, mais plus sérieusement, enfin, si vous voulez un plus grand troll que moi, il y a un type qui s'appelle Strauss-Zelnick. Donc, je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, qui c'est ce type? C'est le PDG de Take-Two Interactive. qui avaient rigolé sur les développeurs de Ubisoft parce qu'ils ont dit, ils sont quand même 17 000 employés à travers le monde. Nous, on n'est que 4 100 personnes et on fait des meilleurs bénéfices qu'eux. On est une plus petite boîte qu'eux, mais on est plus connu à l'international. Alors, comment ça se fait, monsieur de chez Ubisoft ? Bah connard, peut-être que si t'arrêtais d'exploiter tes employés, que tu doublerais peut-être les effectifs, il y aura pas besoin des gens qui seraient obligés de faire du travail supplémentaire, et surtout que les équipes ne feraient pas les 3-8, quoi. Hein, c'est pas une usine non plus, Rockstar.
Bah visiblement, si.
Non mais, après la prochaine étape c'est quoi ? C'est que, comme t'as dit, ils ferment les fenêtres, ça peut paraître anodin. Mais enfin, moi le seul cas où j'ai vu où il y avait pas de lumière qui rentrait, c'était chez les poules qui étaient élevées en batterie, quoi. Mmh. Est-ce qu'on en arrivait là, dans les conditions de travail humaines ? Je sais pas, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, nous sommes en marche.
Oh putain. Non mais il y a vraiment des réflexions qui tiennent de la Startup Nation là-dedans, on est complètement d'accord. La citation qui a fait partir tout ça, c'est la citation du « on a fait 100 heures de travail ». C'est, il n'y a pas plus Startup Nation que ça, que de dire « nous, on a travaillé énormément parce qu'on est extrêmement passionné et parce que de toute façon, on compte pas nos heures ». Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on peut juste se rendre compte que ça ne fonctionne pas, ces choses-là ? Il faut veiller au bien-être de ses employés et c'est comme ça que tu crées de la valeur. C'est le truc qui est très très important pour ces gens-là. Tu crées de la valeur en respectant les gens qui travaillent pour toi.
C'est marrant parce que c'est quand même une entreprise qui est très critique sur la société américaine.
Ouais.
Et notamment vis-à-vis de ses dérives, des médias. Enfin, GTA V, c'est un peu une Amérique vue par des Anglais. Et puis, ils donnent leur point de vue, ils se moquent beaucoup. C'est des gens, en fait, ils sont très critiques, mais eux, en fait, ils ne font pas mieux, tu vois. C'est ça qui est un petit peu dommage.
Ils ont du recul sur les US, mais au final, sur eux-mêmes, ils sont incapables d'apporter une quelconque distance, quoi.
Et le pire, c'est que il y avait déjà eu ce problème sur Red Dead Redemption premier du nom. Et j'ai l'impression, en fait, il n'y a pas eu de suite par rapport à ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, il faudrait que les développeurs et les autres personnes de l'industrie du jeu vidéo se syndicalisent pour éviter justement ce dérive-là et que même...
Ah, oui, d'ailleurs, c'est la remarque que nous faisait LKBD dans les commentaires de la dernière émission et je plus sois à 300%. Ouais.
C'est le problème, en fait, d'une industrie qui est autant basée aux États-Unis, c'est que la syndicalisation là-bas, c'est très très compliqué, quoi.
Ouais, mais attends, c'est pareil chez Ubisoft en France, hein, je te dis tout de
suite.
Oui,
non, bien sûr, bien sûr.
Je dis Ubisoft, mais en vrai, c'est pareil chez toutes les putains de boîtes de jeux vidéo en France. Pourquoi ? Parce que le jeu vidéo, c'est un métier passion, hein, c'est la passion, tu vois. On te la met bien dans le fion parce que c'est la passion, tu vois. Donc, il faudrait peut-être aussi que les développeurs se prennent en main et se syndiquent, effectivement. C'est-à-dire que, malheureusement, quand tu veux pas résoudre les problèmes par la discussion, là, la preuve des discussions, on en a même pas, hein. C'est-à-dire que les heures supplémentaires, c'est obligatoire. Lisez les articles, vous verrez. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas optionnel, hein, c'est obligatoire. Ouais. En tout cas, chez certaines branches de Rockstar. Donc, les heures supplémentaires, c'est obligatoire. Ok, d'accord, on fait grève.
Ouais, non, voilà. Bien sûr.
Et surtout que les développeurs qui ne restent pas jusqu'à la fin du projet, ils sont même pas crédités. Pourtant, c'est quand même des mecs qui ont travaillé sur le projet. Quand une personne travaille sur un projet, qu'elle ait fait la plus petite chose ou la plus grande chose, bah, faut qu'elle soit créditée.
Elle a porté sa pierre à l'édifice, quoi qu'il arrive, tu vois.
Et ouais, voilà. Est-ce que ça serait possible de respecter juste la condition d'être humain? Parce que, tu vois, Sam et Dan Houser, eux, ils sont à un poste où ils sont quasiment intouchables.
Ah oui, non, mais clairement, ils font ce qu'ils veulent.
Voilà. Si on en arrive à des aberrations où les mecs doivent être juste là pour faire plaisir à Sam et Dan Houser dans le studio pour être des pots de fleurs et être payés, entre guillemets, à rien foutre, au bout d'un moment, enfin, je sais pas, ça serait bien que... Peut-être que, en fait, voilà, Rockstar porte très bien son nom, c'est que Sam et Dan Houser sont des putains de Rockstar qui ont des comportements de gamins et sous couvert de faire des très bons jeux et des jeux avec une écriture un peu plus recherchée que la plupart des jeux, et bah ils se permettent de faire des choses que d'autres boîtes ne font pas, et surtout de se permettre de se croire au-dessus des lois. Mmh. Et malheureusement, c'est ça qui me fait un petit peu chier, c'est que au bout d'un moment, quand on arrive à un tel niveau d'ego, je pense qu'il y a beaucoup d'ego aussi dans ces personnes-là, on décolle du sol et on touche plus terre, et ça c'est assez dramatique en fait.
Et moi, à ce sujet, j'aimerais bien entendre Take-Two, parce que s'il y en a bien certains qui sont bien silencieux en ce moment, c'est bien Take-Two, puisque on est d'accord, hein.
Bah oui, parce que Zostrenik, il avait parlé pour Ubisoft, mais là,
c'est depuis rigolo.
La polémique, en fait, on
parce
l'entend
plus,
tu vois.
Parce que pour compter les bifetons, là, il y a du monde, mais par contre, pour gérer des soucis chez des développeurs qui leur appartiennent, hein. On rappelle quand même que Rockstar, ça appartient à Take-Two. Ça, par contre, il y a plus personne. Et c'est rigolo, parce que quand il y a un bad buzz chez Disney, ils règlent ça comment? Bah, il y a le PDG, en fait, qui téléphone, je pense à EA, notamment l'an dernier avec Battlefront 2 sur les lootbox. On pourra les critiquer pour plein d'autres choses, hein. Mais ils leur téléphonent quand même pour gérer la situation. Et on l'apprend même, nous, que ça a été géré. Et là, Take-Two, c'est... Il y a personne.
Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, Dan Houser a voulu se vanter en disant qu'on travaille plus de 100 heures par semaine. Il a vu ça comme quelque chose de positif. Ouais. Et au final, ça s'est retourné contre lui.
Mais ça, c'est un autre monde. Hein. Faut arrêter de se vanter d'exploiter les gens.
Et là, puis il y a des mecs qui ont fait... attends, nous, notre vrai métier, c'est journaliste. Et si on allait enquêter un petit peu, interroger les gens qui travaillent sur Rockstar. Ah, d'accord. Donc, en fait, ce qu'il a dit, c'était pas la vérité. D'accord. Ouais. Voilà. Et là, je pense que, tu vois, je critique beaucoup la presse spécialisée jeux vidéo parce que je pense que c'est, la plupart, c'est pas des journalistes. Mais là, quand il y a des articles comme ça qui sortent, où des gens vont faire des interviews, vont sur les conditions de travail, voir ce qui se passe vraiment derrière le rideau, là, c'est un métier journalistique. Là, c'est un métier vraiment où ils vont chercher l'information. C'est pas une dépêche AFP qui arrive. Hop, nouveau screenshot sur Red Dead Redemption 2, on met ça sur le site et puis on se dit journaliste, quoi.
Ouais, ou c'est pas, on réinterview Dan Houser derrière, et où il te dit ce qu'il veut, il passe son message PR, tu vois, et t'essayes même pas de le contredire un seul instant, tu vois, c'est genre, ah oui, d'accord, oui, d'accord, ok, c'était juste vos potes qui travaillaient, ah non, mais très bien, d'accord, très bien, merci, merci, merci d'être venu nous voir, on reviendra à un moment donné, j'aimerais bien que, bah, je sais que ça sera pas possible parce que les éditeurs verrouillent la communication, mais moi, franchement, il y a des moments, je me dis que ces gens-là, ils mériteraient des vraies interviews, tu vois. Ou quand ils te sortent de la merde, on leur met ça sous le nez, tu vois. On leur dit, bon, alors, ok, maintenant, vous avez quoi à dire sur le sujet?
C'est le gros problème de l'industrie et de la presse, du coup, dans cette industrie-là. C'est que la presse n'a accès à ces gens-là qu'uniquement quand ces gens-là ont besoin de la presse. Voilà. Tu n'as d'opportunité de parler à des développeurs. Et en général, tu parles pas vraiment aux développeurs. Tu parles aux gens qui... ont la stratégie de com bien, bien verrouillée. Et ces gens-là, tu n'y as accès que au moment où la cellule marketing se dit « ça serait bien quand même de shooter une belle grosse salve d'articles à ce moment-là. » Parce qu'évidemment, tout ça, c'est sous embargo, hein, bien sûr. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très, très présent dans la presse cinéma aussi. En général, les interviews que tu as avec les réalisateurs, c'est parce que ils organisent des journées presse et les mecs passent des journalistes en batterie les uns après les autres, ils ont chacun 5 minutes, voire 10 minutes quand ils ont de la chance et que c'est un gros média pour poser leurs questions. Et à chaque fois, le mec te sert la même soupe qu'il a servi il y a 5 minutes. Et ben, c'est exactement pareil avec la presse jeux vidéo.
Le problème, c'est que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui se plaisent à ce qu'ils font et qui ne veulent pas aller plus loin. C'est-à-dire que les journalistes, c'est sûr qu'ils ne vont pas avoir accès à Dan Houser comme ça. Mais ça serait peut-être pas la bonne personne qui voudrait chercher, mais peut-être avoir des interviews écrites sous couvert d'anonymat, parce que je pense que la personne qui ne veut pas se mettre dans la merde, c'est important qu'elle garde son poste, mais justement d'aller sur le terrain, de faire des interviews avec des, d'essayer d'avoir des développeurs qui témoignent secrètement, et après ça restera les dires d'un développeur, mais au moins ça permettra d'avoir une autre version de refaire.
Je pense que c'est même pas une question de volonté, moi je pense que c'est une question de budget aussi, tu vois.
Complètement, complètement, c'est un énorme budget.
C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le budget d'Élise Lucet.
Oui, bien sûr.
Si je peux me permettre.
Non, mais c'est clair.
Non, mais après, je suis d'accord par rapport à ça. Faire que des enquêtes sur le terrain, bien sûr que ce ne serait pas possible et ce ne serait pas viable, ça coûterait beaucoup d'argent. Mais par contre, je sais pas, il y a une autre manière de parler de jeux vidéo que par juste des news et des tests, en faisant des recherches directement dans le jeu en lui-même. Par exemple, en jouant un jeu et en analysant les références historiques qu'il y aurait, par exemple, dans un Assassin's Creed. Pas forcément de faire des dossiers tels qu'on les connaît, voilà, les 10 plus grands mystères de cette série ou je sais pas quoi. Faire des trucs qui poussent à la réflexion et pas forcément qu'à chaque fois d'aller sur le terrain. Il y a plusieurs manières d'aborder le journalisme. Et ça serait bête que justement on se contente que à cette vision là de on touche nos dépêches AFP et puis on balance la news comme ça. Enfin voilà, c'est juste mon avis.
Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais je pense que là tu parles que d'une certaine presse à mon avis.
Oui.
Et il y a des contre-exemples, et il y en a peu. Hein,
oui,
on est d'accord.
Comme
il y a des contre-exemples. Il y a vraiment des gens qui font du journalisme dans le jeu vidéo. Je pense aux gens de chez Pixel au Monde.
Canard PC, par exemple.
Par exemple, j'ai cité JV Le Mag la semaine dernière.
Quand je disais les journalistes, c'est, je mettais pas tous les journalistes dans le même panier. Enfin, après, c'est, le monde n'est pas binaire, noir et blanc. C'est-à-dire que, voilà, vous savez très bien de quelle presse je parle.
Oui, complètement. Mais tu vois, Jason Schreier, pour le coup, il a pas attendu qu'il y ait des soucis chez Rockstar pour commencer ses enquêtes. J'en parlais la semaine dernière. Son bouquin, Du sang, des larmes et des pixels, il allait faire des enquêtes sur 10 studios différents. Chacun des chapitres, c'est sur un développement différent. Le premier chapitre, c'est sur Pillars of Eternity. Ensuite, t'as Uncharted 4. Ensuite, t'as Stardew Valley. C'est des interviews au long cours avec différentes personnes, sous couvert d'anonymat, bien sûr, quand c'est... les gens ressentent le besoin. Mais pour le coup, ça a un coût. Parce que il s'est déplacé lui-même aux différents coins des États-Unis pour aller rencontrer des gens. C'est aussi en dehors de son temps de travail, parce que c'était un projet personnel, donc c'était pas pour Kotaku. Faut bien voir aussi que tout ça, ça a un coût qui est évidemment financier, mais aussi humain et personnel. C'est possible de faire de la très très bonne presse de jeux vidéo, il y en a, de plus en plus je trouve d'ailleurs, de très très bons articles, on en a cité deux aujourd'hui. D'ailleurs, on peut faire les deux, hein. On peut très bien être une presse de jeux vidéo de passe-plat, ouais, et aussi de temps en temps faire de l'investigation, ce qui est le cas d'Eurogamer. En l'occurrence, puisque la plupart de leurs articles sont des articles où, pour le coup, c'est du relais d'informations, mais il y a aussi des moments où ils sont là pour faire de l'investigation.
Ah, mais tu vois, Mandren, sur le point, on est entièrement d'accord, toi et moi. Vraiment, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que, sous couvert que Red Dead Redemption 2 a l'air d'être un excellent jeu si on en croit les critiques, on te balance une news comme quoi il y aurait des problèmes chez Rockstar, et puis après t'as l'impression que c'est passé. C'est comme l'affaire avec Quantic Dream, comme l'affaire avec CD Projekt, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a des choses qui sortent dans la presse, on te balance une news comme ça, balancée entre deux publicités, parce que comme ça, tu vois, tu réfléchis pas trop, et après c'est-à-dire qu'on n'en reparle plus jamais.
Et derrière t'as pas de suivi, je suis d'accord.
Voilà, c'est juste ça que je reproche en fait. Je demande pas qu'on ait des inspecteurs Colombo chez jeuxvideo.com par exemple, mais juste au moins d'avoir un minimum de suivi pour voir voilà, par exemple, est-ce que les mecs de chez Telltale ont vous retrouvé du boulot ou pas derrière, comment ça s'est passé, essayer d'avoir une interview d'un développeur ou peut-être même juste du mec qui, je sais pas, tu vois, qui faisait juste les sous-titres du jeu, des types de personnes comme ça qui ne sont pas forcément, tu vois, les plus connus du studio, mais d'avoir un peu tout le monde. Comme ça, qui donnent leur vision des faits, et voilà, ça serait intéressant justement d'avoir des gens comme, ou bien sinon qui parlent sous couvert d'anonymat.
Ah oui, non mais bien sûr. Non mais là-dessus, on est d'accord, il y a plein de choses à améliorer dans la presse jeux vidéo, et c'est aussi le fait que bah beaucoup de la presse jeux vidéo est basée sur Internet et a besoin de pub, a besoin de clics, et c'est là que il faut se rendre compte qu'il y a d'autres modèles économiques qu'il faut tester.
Ah bah après, parce que là, j'ai l'impression d'être très critique envers la presse jeux vidéo, mais c'est pas une critique qui est réservée qu'à elle, hein. La presse cinéma, enfin, la presse du divertissement en général, voilà.
Bon, par contre, pour terminer sur une note positive, je tenais quand même à ajouter une chose. Je pense que cette espèce de vantardise qu'on a eue là, où on se dit, oui, je fais bosser mes devs comme des bêtes, et regardez, ça fait un jeu formidable. Je pense qu'il y a quelques années, ça serait passé comme une lettre à la poste.
Ouais.
Je pense qu'il y a un progrès, quand même, et que je trouve ça bien que ça fasse une shitstorm. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés sur Internet, qui trouvent pas ça normal, et qui le disent, et il faut le dire, c'est surtout ça aussi. Rappeler à tous ces studios, à chaque fois, que ce genre d'histoire sort, que ce n'est pas normal, et qu'ils doivent améliorer les choses. Bon, messieurs, on va terminer sur un test d'un petit jeu, hein, ça s'appelle Assassin's Creed Origins.
Odyssey. Mais le lapsus est très intéressant. Le lapsus est extrêmement intéressant, par contre. Faut que tu le gardes en montage. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.
En plus, ça allait être la première question que j'allais poser. Alors, bon, c'est Assassin's Creed Odyssey quand même. Assassin's Creed Origins 5.5 ou ça se passe comment?
C'est une bonne question.
Bah surtout que t'as fini le jeu il y a pas longtemps, Mordren, donc t'as encore Origins, ça s'est frais
ouais,
dans ta tête.
J'ai fini Origins il y a pas longtemps. Et clairement, on est dans un moule qui est similaire. On voit que les deux jeux ont été développés conjointement, avec des mécaniques qui se ressemblent beaucoup, notamment le système de combat. Et la façon d'approcher l'open world.
Le côté, en gros, RPG qui permet de fractionner le monde et de faire en sorte que le joueur se balade pas n'importe où, quoi.
Exactement. Et ça, c'est encore plus présent, je trouve, dans Odyssey. En tout cas, je l'ai beaucoup plus senti. Mais je sais pas pourquoi, alors que c'était pareil dans Origins. Mais peut-être le fait que t'es beaucoup plus en contact avec des zones dont tu sais que c'est pas ton niveau, en fait. Notamment au début du jeu, j'étais super surpris d'avoir une zone qui était niveau 34. Alors que j'étais niveau 10. Et pour moi, ça fait partie des choses qui sont pas une très bonne idée. Parce que ça invalide un petit peu la promesse de l'open world, qui est la promesse de la liberté, hein, clairement. Et c'est assez présent, assez vite. J'ai trouvé ça dommage. Pour le coup, la carte de l'open world est immense. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, comme dans tout open world Ubisoft. Mais c'est... ouais, ça m'a gêné, en fait.
Alors, on va dire que c'est une évolution par rapport à Origins qui serait plutôt dans le négatif.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a des évolutions plutôt positives que vous avez remarquées ?
Bah, je pense qu'il faut parler du système de combat, ATH, non ?
Le système de combat, je trouve que dans Odyssey, par rapport à Origins, est beaucoup mieux. En fait, maintenant, pour faire simple, vous avez un système de contre. Mais il faut avoir le timing précis pour pouvoir contrer les ennemis. Et surtout, en fait, bah, il n'y a plus le bouclier. Et ça, c'est quelque chose qui est assez cool, parce que le jeu n'est pas aussi simple que ça. Déjà, ouais. Origins avait relevé un peu le niveau de difficulté dans la série Assassin. Là, je trouve que le niveau, on peut pas les défoncer à la chaîne qu'on pouvait le faire auparavant dans la série.
Il y a même des passages, honnêtement, je suis sur le jeu, là, actuellement, je suis à peu près à 25 heures et je suis en difficile. Il y a des passages qui sont chauds patates, hein, quand même.
Ouais, ouais.
Si tu maîtrises pas le contre, notamment, tu te fais rouler dessus, quoi.
Il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, et c'était présent dans Origins, mais ça m'a vraiment frappé dans Odyssey, c'est que les ennemis n'attendent plus le joueur. S'il y a trois ennemis qui ont envie de te taper au même moment, bah il y a trois ennemis qui te tapent au même moment. Et tu te démerdes, quoi.
Et tu prends
cher. Fallait pas te laisser encercler, fallait prévoir, il fallait gérer les mouvements full, etc. Quitte à te replier à un moment donné pour sortir ton arc, pour les canarder de loin, essayer de dégraisser un peu ce qui se passe devant toi, ou même essayer d'être un peu fourbe et aller dans un endroit un peu plus perché pour faire en sorte qu'ils aient du mal, et dès qu'ils essaient d'escalader, bah là, tu leur donnes un bon gros coup de tatane pour qu'ils retombent par terre et qu'ils meurent en un coup. Enfin voilà, il y a plein de stratégies, je trouve, qui sont assez intéressantes. C'est un système de combat qui est dynamique et qui a plein de possibilités, quoi.
Par contre, ça c'est, on va dire, le côté positif de la chose, mais j'ai quand même noté certaines choses qui m'ont un petit peu déplu. Déjà, je trouve que les collisions sont pas toujours très précises. Par exemple, avec la lance ou des ennemis qui ont des armes longues, des fois ils te touchent alors qu'ils devraient pas te toucher.
C'est
des petits soucis, mais par exemple, quand vous jouez en mode difficile et que les ennemis font très mal, ça peut être embêtant. Après, le système de combat qui était très bien au début, bah à la fin, quand t'as beaucoup d'aptitudes et tu peux dépenser pas mal de compétences et que tu peux les spammer surtout pendant les combats, bah t'as l'impression d'être dans un Dynasty Warriors, et ce qui enlève beaucoup beaucoup d'intérêt au gameplay, parce que les ennemis qui avaient un bouclier, par exemple, vous avez une aptitude qui permet de prendre le bouclier et le dégager. Ça c'est pour les petits boucliers, mais par exemple au niveau 3 vous avez une aptitude qui défonce tous les boucliers, et en plus de ça provoque une onde de choc sur tous les ennemis. Et voilà, en fait, moi c'est ces aptitudes là qui m'embêtent un petit peu, parce que il y a le début du jeu qui est difficile, mais après, bah le jeu il se rééquilibre et on devient trop puissant.
D'accord.
Et c'est un défaut qu'il y avait aussi dans The Witcher 3 et pas mal de jeux de ce type-là. Moi je trouve que, tu vois, Origins, il est mieux maîtrisé sur ce côté-là, parce que Bayek justement n'a pas de super pouvoir qui sort de nulle part. Enfin si, il a des pouvoirs qui sortent de nulle part, mais
la flèche quand même, faut pas exagérer. Hein. C'est
voilà,
peu,
mais c'est à peu près la seule capacité mystique qu'il a.
Ouais.
Alors que tu vois.
D'ailleurs le skill tree, je trouve qu'il est illisible. Il y a beaucoup trop de trucs. Ou en plus, il y a certaines aptitudes, la plupart d'ailleurs, qu'on détire, c'est-à-dire que tu peux dépenser plusieurs points de compétences à l'intérieur pour augmenter leur capacité. Et je trouve que c'est un peu lourd, quoi.
Bon, là, par contre, je vais juste contredire Mordren, mais bon, moi, ça compte pas, hein, je suis un joueur de Path of Exile, et pour moi, ça me fait rigoler quand je vois ça, mais voilà.
Non, mais par contre, tu vois, le côté super pouvoir, super naturel, ça peut être sympa sur le papier, mais là, c'est des pouvoirs qui sont quasiment cheatés. La lance de Leonidas, qui est une arme qu'on possède obligatoirement sur nous, on peut la lancer sur un ennemi, et puis enchaîner un deuxième adversaire, un troisième, et un quatrième, en faisant des dégâts d'assassin, Et ça, ça simplifie trop la chose. Très, une fois, fort, la capacité est boostée au maximum. À la fin du jeu, je jouais plus du tout infiltration. Je me disais, attends, c'est quasiment impossible que je meure. Bah, je vais dans le camp, je les défonce tous un par un. Tu peux m'amener tous les mercenaires que tu veux de la planète. Bah, je vais les éclater quoi qu'il arrive.
C'est ce que j'allais dire, ouais. Le début du jeu, je trouve qu'il est hyper agréable parce que tu te sens faible, en fait, dans ce monde-là. Et ça te force vraiment à tenter l'approche infiltration. Et c'est vrai que quand ça devient trop facile, tu ressens plus du tout ce besoin-là. Je trouve qu'ils ont pas encore trouvé le moyen de faire en sorte que on roule pas sur le jeu. C'est rigolo, parce que j'en parlais tout à l'heure, le scaling de niveau, a priori, c'est fait pour ça. Même en ayant ça, ça suffit pas. Donc on est toujours pas dans la bonne option, quoi.
Alors, d'ailleurs, autre problème avec le scaling de niveau, enfin, moi, justement, je trouve que le jeu n'incite d'autant pas à utiliser l'infiltration que moi, pour avoir joué en difficile, il y a des trucs qui te sortent complètement du jeu à cause de ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un mec qui est en train de dormir. Ouais, mais comme il est deux levels plus haut que toi, bah, t'arrives pas à le tuer.
Ou les tirs à la tête, putain.
Il y a
les tirs
des
à la
trucs
tête.
Absurdes comme ça, mais il y en a partout, quoi.
Bah, ça crée une dissonance en jouant au jeu.
Ouais.
Parce que t'as beau avoir un assassin qui saute de 3 mètres, par exemple, de hauteur, bah, déjà, il y a la gravité. Donc, le poids du personnage. Plus le fait qu'il te balance quand même une lance en plein milieu du cou. Même Hulk, à ce niveau-là, il meurt, tu vois.
Le problème, si vous voulez, c'est que autant jouer guerrier ou jouer chasseur, on va dire, en gros, jouer à distance et jouer au corps à corps, il n'y a pas de problème, tu peux bourriner, tu vois. Par contre, quand tu veux jouer assassin, à moins que t'aies vraiment optimisé comme un port ton stuff, parce qu'il y a un stuff pour chaque type de discipline, on va dire, à moins que t'aies optimisé comme un port ton stuff, que t'aies bien augmenté tes compétences comme il faut et que tu t'y sois vraiment pris bien comme il faut pour essayer de faire le maximum de dégâts, t'as quasiment toutes les chances de pas y arriver, quoi.
Et c'est là où ça pose un problème, en fait, dans la licence Assassin's Creed. C'est que ce côté RPG, je trouve, ne va pas, en fait, à la licence.
Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec le côté... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle RPG, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que moi, si RPG, c'est un système de leveling à la con comme ça, effectivement, je suis d'accord, ça n'a rien à faire là. Par contre, je pense qu'un système où tu débloques des perks qui vont te permettre de débloquer des capacités mais qui sont pas forcément cheatées, tu vois, qui permettent juste d'étendre la palette de possibilités, de choses que tu peux faire avec ton personnage, tout en étant quelque chose de raisonnable d'un point de vue gameplay, qui va pas faire que tu vas complètement péter le jeu, ça c'est intéressant, tu vois, et ça apporterait quelque chose au jeu sans dériver de la formule actuelle, quoi, en fait.
Moi je suis d'accord, mais même là, en partant dans le postulat qu'ils ont choisi pour ce titre, ils auraient dû laisser l'assassinat élimination faite en un coup, quoi qu'il arrive. Parce que, encore, il y aurait que des combats. Ça pourrait passer. Mais là, le problème, c'est que, entre guillemets, on est censé jouer un assassin. Même si c'est pas vraiment un assassin dans cet épisode-là. Bah, le fait de pas pouvoir faire cette élimination furtive en un seul coup, bah, ça t'enlève déjà tout,
cet aspect où gameplay,
tu, voilà, c'est ça, où tu prépares ton plan. Ils auraient dû faire un mix entre les deux. C'est-à-dire, l'assassinat, il se fait en un coup. Par contre, si tu te fais repérer par les gardes et les ennemis, bah là, du coup, c'est la dimension RPG qui prend le pas.
Je pense, en fait, que le vrai souci dans cette histoire-là, c'est que le jeu fait tout pour que tu restes à un endroit qui est de ton niveau jusqu'à ce que tu passes à un niveau suivant qui te permette, justement, de faire des one-shots en assassinat. C'est-à-dire que le jeu te force à farmer, en fait.
Mais non, mais même pas, parce que même moi, j'étais au niveau maximum. J'allais éliminer des cibles, mais juste parce que le soldat était, entre guillemets, un soldat élite, je ne pouvais pas le tuer en un coup. Il perdait à peine 25% de sa barre de vie.
Ah ouais, donc il y a des moments où le jeu a décidé que t'allais te fighter et que t'allais pas
assassiner.
Voilà,
parce que le jeu te dit nope, lui plus fort que toi, lui vouloir tuer toi, toi combattre de manière loyale, tu vois.
Attends, on s'est fait chier à faire cet ennemi quand même, tu vas pas le tuer en un coup, quoi, faut pas déconner non plus. Autre chose, je vais vous demander une confirmation, en fait. Moi, il y a une chose que j'ai trouvé intéressante dans ce jeu, et j'ai l'impression que c'est une chose qui a évolué depuis Origins, c'est l'aspect exploration du jeu. C'est-à-dire que, autant, effectivement, je suis d'accord avec Manren, il y a tout un côté chiant dans l'exploration, où on te met des grilles en te disant « t'as pas le niveau, reviens plus tard », autant il y a des choses intéressantes, notamment au niveau du fait que, sur la quête principale, il y a tout à fait la possibilité de désactiver le HUD du jeu, et de pouvoir jouer sans le HUD, contrairement à The Witcher 3, par exemple, parce que les quêtes ont été designées de manière à ce que, par exemple, les personnages te donnent les directions, etc. Et où, finalement, le jeu t'autorise à être immergé, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial et j'ai pas l'impression que c'était présent dans Origins.
Non.
Et franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'aimerais qu'ils poussent ça encore plus loin s'ils font un nouvel épisode. Enfin, je dis s'ils font un nouvel épisode.
Ah, c'est évident qu'ils vont faire. Hein.
Voilà. Mais je veux dire, je pense que c'est pour le coup... Il y aurait des choses à améliorer dans le prochain épisode par rapport à ça, et notamment qu'ils fassent en sorte que, alors certes c'est bien de faire ça pour la quête principale, mais par contre messieurs de chez Ubisoft, quand on fait ce genre de proposition, ça serait bien de le faire pour les quêtes secondaires aussi, parce que quand t'as désactivé le HUD et que finalement tu te rends compte au bout de 20 minutes qu'il faut le réactiver parce que dans la quête secondaire machin là, ben on te dit va tuer machin, ce que machin tu sais pas où il est, ben au final ben, tu réactives tes icônes et c'est super relou, tu vois, de systématiquement retourner dans le HUD, réactiver le machin pour telle ou telle quête, s'il vous plaît la prochaine fois faites les choses pleinement et pas à moitié.
Par contre, j'ai pas compris, Tyran, ce que t'as dit là, par désactiver le côté, enfin le mode exploration pour remettre le mode guidé. Enfin, moi, quand je joue au mode exploration, mais pendant les quêtes secondaires, il y avait le point qui m'apparaissait pour me dire où est-ce qu'elle était cette personne.
Ah non, mais toi, t'as peut-être pas désactivé parce que moi, je désactive tout, hein, mais vraiment tout.
Ah ouais, ok, ouais, non, ok, c'est pour ça. Ok.
D'ailleurs, justement, on parlait de catégorisation de quêtes. Donc quête principale, quête secondaire toute pourrie. Et je pense que c'est intéressant d'en parler aux gens.
Notamment pour ce qui est de l'écriture. Hein, parce que...
Ouais, il y a un vrai différentiel dans la qualité d'écriture du jeu. C'est-à-dire qu'en général, les quêtes principales sont plutôt cool. Les vraies quêtes secondaires, c'est-à-dire que celles qui sont symbolisées par un losange jaune, en général, ça va aussi. Mais alors par
et
contre...
Et encore, c'est variable hein, déjà.
C'est variable, en fait...
Même la quête principale, elle est variable, hein. C'est ça le problème aussi.
J'ai pas tout fait, hein, pour préciser, je suis comme Tyran, j'ai joué 25 heures au jeu. Mais pour moi, la variable la plus importante dans la qualité d'une quête dans le jeu, c'est s'il y a une possibilité de romance ou pas. Et s'il y a une possibilité de romance dans le...
C'est que des baises.
Voilà. S'il y a une possibilité de romance dans la quête que vous êtes en train de faire, en général, la quête, elle va pas être top niveau écriture.
Le problème, c'est que... Une fois qu'on sort de cette fameuse quête principale, il y a des choses, mais tu te dis, putain, c'est pas possible, quoi. Enfin, déjà, regarde, le présent. Je trouve ça très bien qu'ils ont pas mis des phases de présent plus qu'il y en a dans le jeu, parce qu'elles ne servent absolument à rien. C'est des phases qui sont totalement inutiles, autant ne pas en mettre du tout dans le jeu. On voit clairement qu'Ubisoft ne sait pas du tout ce qu'ils veulent faire avec ça. Ça sert à rien de les mettre, parce que là, il y a, ok, c'est bon, on a mis Layla, elle est là, mais elle a fait 2-3 passages... Ils auraient pu être supprimés du jeu parce que ça n'apporte rien.
Honnêtement, les gens, je veux pas être médisant, mais quelqu'un qui arrive sur la série qui ne connaît pas, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» J'en ai rien à foutre de ça, laissez-moi retourner à la Grèce antique, aller buter des trucs, quoi. Enfin, c'est...
Ah, mais tellement, putain.
Voilà, enfin...
C'était pareil dans Origin, qu'est-ce que c'était chiant. Laissez-nous tranquille.
Assumez jusqu'au bout, ils ne mettaient plus ces scènes-là. Enfin, parce que
surtout qu'en plus, tu peux y retourner immédiatement. Hein. Après la fin de la cinématique, tu fais... Est-ce que tu veux retourner? Ah bah oui, s'il te plaît. Mais alors la prochaine fois, juste me dérange pas, quoi.
Non, mais il y a une quête en particulier qui est liée, on va dire, avec le présent, avec une énigme, attention. Et encore, quand je dis une énigme, hein, c'est... Voilà. C'est-à-dire que même je pense que quelqu'un qui n'est pas encore né peut la résoudre. Hein. Enfin, ça ne sert à rien. Mettez une cinématique directement, ça fera moins chier les gens. Après, il y a aussi un autre point que je voulais revenir là-dessus, c'est que des fois, il y a des moments où le jeu est assez drôle, en fait. Le personnage fout de la gueule carrément des PNJ. Oui. Les PNJ qui se foutent de ta gueule. Par exemple, moi, je suis un peu dégoûté parce que pour moi, le meilleur personnage du jeu, c'est Marcos. Et Marcos, une fois qu'on a quitté le tuto, donc l'île de base du jeu, on le voit plus, mais voilà, je veux dire, j'aurais bien aimé prendre ce personnage avec moi parce que je trouve qu'il était assez drôle. En fait, tout simplement, c'est un mec qui pense qu'à faire des profits, qui est pas du tout crédible dans son rôle, mais tu vois, tu t'attaches à lui parce qu'il est cool. Mais vraiment, enfin, je trouve que le jeu, il est quand même plus léger qu'un Origins. Bah après c'est expliqué par le scénario.
Clairement oui.
Ouais, parce que Origins c'est quand même une histoire d'un mec qui a perdu son gosse, qui l'a tué lui-même.
Bon, une quête de vengeance.
Voilà.
Ce qui est pas du tout le cas du coup de la quête de Cassandra ou d'Alexios.
Ah c'est un mercenaire quoi.
Ouais. Alors déjà en plus oui c'est un aspect qui est hyper important dans le jeu d'ailleurs. Son côté mercenaire et qui de là va découler un certain nombre de mécaniques de gameplay. Mais le fait que sa quête à lui ou elle c'est de retrouver un peu sa famille, c'est pas du tout le même concept que je veux me venger de la mort de mon fils. Et effectivement, ça apporte une légèreté qui est tout autre à Odyssée.
Mais vraiment, enfin, une fois qu'on a fini le jeu, vraiment, là, pour les gens qui auront le courage d'aller jusqu'au bout, et il faut en avoir parce qu'il y a certains passages où quand même tu te dis, c'est un peu lourd, t'as l'impression que le jeu, en fait, il est pas fini. Il y a une fin au jeu, donc voilà, il se passe quelque chose, mais en général, quand tu finis la dernière mission d'un jeu, il y a un générique avec les gens qui ont travaillé chez Ubisoft. Et bah là non, en fait il y a pas de générique, c'est-à-dire que le jeu il est fini, mais après en fait ça se voit que on ressent la dimension
jeu à service,
un jeu service, voilà, parce que ouais. T'as l'impression que le jeu est fini mais on peut continuer à jouer et voilà, c'est l'Odyssée est fini mais on va faire une autre Odyssée et du coup même une fois que le jeu est fini il dit bon bah maintenant on va continuer à faire nos aventures comme si t'avais pas fini toutes les quêtes qu'il y avait dans le monde et du coup bah le jeu prend en compte tout ça que t'as fini ton histoire mais voilà c'est à dire qu'en fait j'ai fini le jeu je me suis dit, c'est ça la fin normalement il y a pas le rideau normalement Yves Guillemot et tout du coup c'est un je sais pas c'est assez paradoxal
j'avoue, c'est bizarre ouais.
Bah non enfin c'est pas bizarre c'est totalement
ça, ça confirme
avec
la volonté du Ubisoft
ils l'ont dit hein c'est écrit noir sur blanc dans les interviews hein le jeu il va continuer il y aura d'autres histoires il y aura d'autres trucs c'est ça qu'ils veulent faire avec Assassin's Creed Odyssey
d'accord.
Ils l'ont dit c'est écrit tu vois
donc c'est limite un aspect épisodique finalement quoi
et ça se voit d'autant plus que tiens vous voulez qu'on parle de l'aspect jeu à service. Allez faire un tour dans la boutique, vous allez comprendre aussi ce que c'est l'aspect jeu à service. Parce que tout à l'heure, on parle de la progression RPG. Mais pourquoi ils ont mis une progression en RPG dans ce putain de jeu ? Pourquoi ils ont mis du loot, etc. ? Mais parce que putain, il faut que t'ailles dans la boutique dépenser des sous, quoi. Et notamment, maintenant, c'est un standard chez Ubisoft, tu vas aller dans la boutique pour débloquer des cheat codes, pour avoir des ressources, ce genre de conneries, parce que si jamais ça te fait un peu chier de farmer des ressources, ben, bon, je précise, hein, c'est pas non plus, voilà, mais ils se disent, bon, écoute, si tu veux un cheat code, allez, va le payer, voilà. Et tout l'aspect jeu à service, il est en place, hein, la boutique, elle est là, elle est prête, ce jeu, tu vois quand même qu'il est là pour, en théorie, durer un certain temps. Que ce soit du point de vue de l'histoire par rapport à ce qu'a dit ATH, ou de ce que les gens ont prévu de te faire payer, que ce soit des costumes, etc. Ça fait super chelou, tu vois, de voir un Assassin's Creed utiliser les mêmes méthodes de promotion que Warframe.
Ouais. On rappelle que c'est un jeu que tu payes plein pot. Hein.
Oui, voilà. Parce que quand je vais sur, par exemple, Twitch, et que je vois qu'on m'offre des costumes, comme on m'offre des costumes sur Warframe, je commence à me dire, oula, c'est...
L'aspect où tu achètes avec de l'argent, ça existe déjà depuis Assassin's Creed Unity. Donc, c'est-à-dire, dans Origins, il y avait déjà eu ça, puis dans Syndicate, je suppose que ça devait exister.
Ouais, mais là, en plus, t'as des mécaniques de gameplay qui forcent, entre guillemets, enfin, qui t'incitent à faire ça.
D'Origins aussi, c'est, enfin,
oui,
il y a
mais
des
ça, pour le coup, dans Origins, c'est déjà le cas. Mais pour le coup, Syndicate et Unity, ça l'était pas, puisque c'était les mécaniques classiques.
L'aspect RPG, pour moi, je pense qu'il est pas là pour, apporter quelque chose.
Il est pas là pour faire jouer,
etc. Il est là parce qu'il est pensé et intégré avec un modèle économique. Et c'est principalement ça, moi, qui me pose problème avec cet aspect-là. Surtout qu'il a des impacts après, notamment vis-à-vis de l'assassinat, etc., qui sont assez problématiques.
Je pense qu'il faut qu'on continue à parler un peu des nouveautés qu'apporte Odyssey. Parce qu'on n'a pas parlé encore de la dimension choix qu'apporte Odyssey, qui était pas là dans Origins. Moi, je trouve que, enfin, de ce que j'ai vu, hein, sur les 25 heures que j'ai fait, je suis encore vraiment au début du jeu. Hein. Je viens tout juste d'arriver à Athènes.
D'ici après 25 heures.
Ouais, mais parce que moi, je fais vraiment tout. C'est-à-dire que quand il y a, je fais les 100% des régions à chaque fois. Donc c'est pour ça que je mets du temps. Et je trouve que pour l'instant, c'est très cosmétique. Donc j'avais une question à te poser à TH, c'est est-ce qu'il y a vraiment des impacts au choix que tu fais ou c'est juste un aspect marketing dans pour le jeu, quoi?
En fait, il y a un impact sur l'histoire principale, entre guillemets.
Ouais.
Mais, en fait, on va dire déjà tout ce qui est secondaire, bah, tes choix n'ont pas vraiment de conséquences, mis à part sur la quête en elle-même. Et encore, même les choix que tu fais dans ton aventure principale, mais ça va être vraiment du choix, genre, quel personnage est encore vivant, quel personnage n'est pas vivant. C'est-à-dire, ça va pas être des choix qui vont avoir une importance vraiment immense sur le monde, tu vois. C'est vraiment quelque chose, tu te dis, ok, tout ça pour ça, entre guillemets. Les choix, en fait, il faut plus les voir comment Alexios ou Cassandra vont réagir par rapport à leur monde, c'est-à-dire s'il va être plus ironique, plus drôle, ou bien plus menaçant, plus vénère. Mais ça s'arrête là, en fait, vraiment. Il n'y a pas vraiment de conséquences. Par exemple, on peut choisir Sparte ou Athènes, mais ça n'a pas vraiment de conséquences sur l'impact de l'histoire. Tu peux avoir combattu tout le temps pour Sparte, et la fois où tu vas aller voir Athènes, ils vont pas dire « Ah non, toi, tu nous as bien emmerdé sur les champs de bataille précédents, on te connaît maintenant, puis ça, t'es un mercenaire réputé. » Bah on veut pas de toi ou bien dès qu'ils te voient ils te chassent et ça c'est un petit peu dommage ou bien genre que le jeu soit plus difficile quand tu vas dans une région athénienne alors que ça t'a aidé Sparte plusieurs fois. Bah je sais pas, enfin le jeu aurait pu être vraiment vraiment très cool si tout le système de mercenaires, le système du culte du cosmos qui sont les cibles à éliminer, le système de région qu'on doit conquérir aurait été lié d'une manière plus organique à la manière d'un l'ombre du Mordor avec ce système Némésis. J'ai vu le potentiel en fait du truc quand en y jouant et je me suis dit putain en fait c'est vraiment que de la surface, c'est joli c'est cool, mais le fond est vide.
Ouais, parce que les guerres du Péloponnèse, au final, t'as l'impression que c'est un truc qui est là pour t'occuper. Les mercenaires, c'est les flics de GTA, quoi, en gros. On s'attendait à quelque chose un peu à l'ombre du Mordor, mais en fait, pas du tout, quoi. C'est des mecs qui viennent là, tu les butes pour avoir du stuff, quoi. In fine, enfin, je me rends compte, le but à chaque fois, c'est de choper du stuff. C'est-à-dire, voilà, t'es là pour gagner du stuff. Et finalement, le côté impact sur l'univers, l'histoire, etc., osef un peu, quoi.
Voilà, tes choix ont un impact, mais un impact tellement cosmétique que ça devient frustrant, en fait, finalement, vis-à-vis du jeu. Et j'ai une dernière chose à dire, c'est que, par exemple, en tant que nouveauté, il y a les bateaux qui font le retour. Je trouve que Black Flag avait mieux réussi que cet Assassin's Creed Odyssey parce que dans Black Flag, il y avait des objectifs quand t'arrivais sur un navire, par exemple,
ouais,
éliminer
Black
le capitaine.
Flag, c'était le cœur du jeu, la TH. Là, c'est plus que secondaire, excuse-moi.
Et c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que ce système-là, il a été ajouté, comme les autres systèmes que j'ai dit auparavant, mais qu'il est secondaire, en fait.
Mais pour moi, il souffre du syndrome God of War, c'est-à-dire que il sait pas s'arrêter, en fait. Moi, c'est pour ça que je vous le dis, je pense que je vais pas le terminer. Parce que il y a trop de choses où je me dis ouais, mais pourquoi faire en fait ? Et je pense que c'est un jeu, ils ont voulu le remplir de contenu, tu vois, ils ont voulu mettre plein de trucs dedans pour occuper le joueur. Absolument, il faut tout le temps occuper le joueur. Sauf que ces trucs-là, ils sont pas forcément intéressants et finalement, ça dilue, tu vois, les trucs qui sont intéressants dans le jeu.
Je suis super d'accord.
Franchement, moi je pense que c'est un jeu et qui aurait mérité de pas être un jeu à service, en fait. Enfin, c'est ça le truc, quoi. C'est-à-dire que comme ils ont voulu faire un jeu à service, ils ont voulu mettre plein de choses dedans, tu vois. Et là, moi, je dis, mais vos trucs, là, en fait, ils sont inutiles. Et moi, c'est ça qui me déconnecte du jeu au fur et à mesure. C'est-à-dire que je suis tout le temps distrait par des trucs à droite et à gauche. Et au final, je me concentre pas sur l'essentiel qui a l'air quand même assez cool, quoi. Et je pense que, enfin, moi, si j'avais une requête à faire, est-ce que vous pourriez pas faire un Assassin's Creed pareil, tu vois? Mais sans l'aspect jeu à service, moi, ça m'intéresse beaucoup plus, en fait. Parce que je pense que, du coup, vous vous concentrerez sur l'essentiel et que ça sera vachement plus intéressant, quoi.
De temps en temps, t'as l'impression de regarder une dissertation d'un mec qui est en première et qui sait pas encore trop comment se débrouiller. Du coup, il rajoute plein de trucs, des phrases qui servent à rien, mais qui font joli. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est superbe, hein, vraiment, qui a vraiment plein de trucs qui sont super agréables à jouer. Enfin, le système de combat, on en a parlé, c'est vraiment cool. Puis la Grèce antique, vraiment, on en a pas parlé, mais elle est super bien recréée. Enfin, on s'amuse.
Les meilleurs paysages qu'ils ont fait,
ouais,
je pense.
Ouais, il y a de la mise en scène vraiment cool. Puis voilà, quand ça marche dans ce jeu, ça marche vraiment bien. Le truc, c'est que ils en ont trop fait. Ils en ont trop fait et je pense qu'il y a des réalités économiques qui sont derrière ces choix, évidemment. Et c'est dommage parce que, l'air de rien, on a beaucoup parlé en négatif de ce jeu. On a quand même un sentiment qui est plutôt positif sur le jeu, c'est-à-dire qu'il y a une...
C'est pas un épisode inutile. Ça, je tiens à le dire, c'est pas un épisode qui sert à rien. Il y a des choses qui sont
exactement
différentes et qui sont intéressantes.
Voilà, c'est pas Assassin's Creed Unity. Loin de là, c'est encore moins Syndicate. C'est un jeu qui est agréable à jouer, qui a plein de bonnes idées, mais... qui pêche par orgueil, quoi. Il va trop loin sur certains trucs, il va pas assez loin sur certains trucs qui étaient bien, il en sacrifie trop sur l'autel du jeu à service. Et c'est vraiment dommage de se dire ça d'un jeu qui, normalement, est solo et qui devrait pas avoir toutes ces mécaniques-là, mais on est dans une réalité économique du jeu vidéo actuel. Voilà, le Ubisoft s'est dit, il faut qu'on fasse ça, c'est une mauvaise idée, clairement.
Enfin, moi, ce que je retiendrai surtout de cet Assassin's Creed, c'est que déjà, le début, pour moi, il était magique. C'est-à-dire, au début, ça fonctionnait comme dans la poudre aux yeux. Et je me suis imaginé, fantasmé un petit peu ce monde que j'allais découvrir. Je me suis dit, chaque choix va avoir une conséquence, ça va être immense, les combats navals, ça va devenir de plus en plus épique. Et plus j'avançais dans le jeu, plus je me rendais compte que c'était très optionnel. Et du coup, en fait, ce jeu-là, il est cool, comme l'a dit Mandren. C'est un jeu qui a des défauts, comme beaucoup de jeux. C'est un jeu où tu prends du plaisir, parce que sinon, je pense que je l'aurais pas terminé. Mais vraiment, c'est frustrant. J'ai vu le potentiel en fait du jeu,
c'est ça,
que j'aurais imaginé. Et c'est la première fois que un jeu Ubisoft me fait cette sensation là. Hein. Mais je me suis dit, s'ils avaient poussé le curseur un peu plus loin, ou bien peut-être sorti l'Assassin's Creed plus tard, on a poussé le délire du monde organique, quoi. Je me suis dit peut-être que là le jeu aurait été cool. Parce que là, au final, quand on va dans une zone, surtout toi, Mandren, je pense que jouer de la manière donc t'es en train de jouer, tu vas te gâcher un petit peu l'expérience.
C'est déjà en train de le faire, et c'est comme ça que j'avais lâché Origins d'ailleurs.
Bah voilà, moi je te conseille vraiment de faire d'abord les missions principales et secondaires, pour que tu gardes un niveau, on va dire à peu près similaire à la quête qui t'est demandée. Puis après, si t'as envie, tu reviens dans les zones que t'as fait. Parce que sinon, tu vas pas vraiment du tout apprécier ce que tu vas faire. Mmh. Et même, tu vois, je sais pas, par exemple, les tombeaux dans Assassin's Creed 2 étaient géniales. Il y avait des énigmes, il y avait du parcours. Ça demandait un petit peu de dextérité. Là, je vais dans un tombeau. Ok, il y a deux, trois serpents qui se battent en duel.
C'est vraiment pas top, hein.
Je me balade avec ma torche. J'ai trouvé ce que je cherchais, je ressors. Enfin, voilà. C'est vraiment dommage. Je pense que Assassin's Creed est sur des bons rails pour faire un bon retour avec Origins et Odyssey. Parce que pour moi, très clairement, ça devient mes épisodes préférés quasiment de la licence avec le 2 peut-être. Mais vraiment, je me dis, c'est dommage. Je pense que Ubisoft aura pu revenir dans le game et faire taire tout le monde, tu vois. Ils auraient vraiment dû casser les verrous et laisser vraiment libre cours aux imaginations des développeurs et faire quelque chose vraiment de plus poussé. Et là, ça aurait pu faire vraiment pas qu'un simple bon jeu, mais un grand jeu, quoi.
Voilà. Bon, messieurs, on va s'arrêter là pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Bye bye.